ce mois de novembre 2022 se tient la conférence annuelle de Microsoft consacrée à .NET, la .NET Conf. Depuis 2016 et sa première version, .NET Core n'a cessé de s'améliorer, d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Il a même changé de nom pour s'appeler .NET tout simplement avec la version 6, qui venait après la version 3.1, logique. Version avec un support à long terme, tout comme la prochaine version, la 8, prévue pour fin 2022. Vous suivez ? Donc on pourrait s'attendre à ce que ce .NET 7 ne soit qu'une version intermédiaire, ce qui est loin d'être le cas, et nous allons essayer de vous le montrer à travers deux épisodes spéciaux. Pour ce premier épisode, je reçois Laurent Campé, Microsoft MVP, catégorie développeur technologie, qui va nous parler tout spécifiquement des améliorations de performance de .NET. Alors montez le son et rendez-vous au premier pull request.
Donc chaque nouvelle version de .NET depuis .NET Core en 2017, Stéphane Toub, qui est un partner software engineer de l'équipe .NET, il a pris la bonne habitude, je trouve, d'écrire un long blog post qui décrit les différentes optimisations apportées à la nouvelle version. On est à quelques jours de la publication de la version 7 de .NET, et même si son blog post date de la fin août, on est en plein dans l'actualité, puisque dans quelques semaines, ça va être réalisé. Alors attention, c'est vraiment du lourd. Si on sauve sa page, c'est 194 pages de PDF. Donc, il y a beaucoup de matériel à lire. D'ailleurs, il fait une petite phrase qui est assez marrante, je trouve, dans les termes anglais, « too long, didn't read ». Trop long, je ne l'ai pas lu. Donc, c'est une espèce de résumé. Et donc, il dit, c'est .NET 7 est rapide, très rapide. Il y a un millier de pull requests qui ont un impact sur les performances qui ont été intégrées dans les bibliothèques d'exécution et de base de cette version, sans parler de toutes les améliorations apportées à ASP.NET Core, Windows Form et Entity Framework et au-delà. C'est le .NET le plus rapide de tous les temps. Si votre responsable vous demande pourquoi votre projet devait être mis à un niveau vers .NET 7, vous pourrez dire, en plus de toutes les nouvelles fonctionnalités de la version .NET 7, elle est plus rapide. Elle est super rapide, même.
Et une idée au niveau des améliorations de performance ? J'imagine que ça dépend des sujets.
Oui, ça dépend fortement des sujets et de ce que vous utilisez dans le framework, etc. On va voir une partie en fonction du temps qu'on a, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matériel. On va voir des parties assez basses pour l'instant, telles que JIT, GC, Native IoT et ce genre de choses. Mais il y a beaucoup plus de choses, comme les regex, les spans, les arrays, les strings, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'optimisations.
Oui, juste un truc, c'est qu'il y a, on pourrait dire, il y a deux catégories. Il y a vraiment le moteur de .NET, comme tu disais, avec le JIT, le garbage collector, etc., où il y a des optimisations. Et puis après, il y a la partie code, où là, il y a la communauté qui a participé énormément, quoi.
Ouais, exactement, exactement.
DevDevDev.NET. Richard Clark.
Donc, si on commence, on va parler. En fait, il y a une longue liste par catégorie. Je l'ai pris dans la même ordre que celle que Stéphane Toub a utilisée. Et donc, le premier sujet, c'est le JIT, Just-in-Time Compiler. Donc, ils ont introduit une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle OnStack Replacement. En fait, l'idée, c'est le compilateur JIT, il doit faire face au compromis entre le démarrage et le débit de génération de code. L'optimisation du code natif, ça nécessite une analyse, ça prend du temps de l'exécution, et tout ce travail entraîne ensuite une augmentation du temps de démarrage, d'accord? Donc, c'est toujours la balance entre le temps de démarrage et la rapidité d'exécution du code. Donc, encore une fois, le compilateur JIT, donc, si on revient aux bases de .NET, quand on compile un applicatif, on le compile en Intermediate Language, YEL, et c'est au runtime qu'un compilateur, qui s'appelle le compilateur JIT, qui va exécuter, en fait, qui va transformer ce code YEL en code machine, qui est exécuté sur le CPU que vous utilisez. Donc, le compilateur JIT doit faire des compromis. Une des réponses à ça, c'est la compilation anticipée, qui s'appelle tiered compilation. Ça permet au JIT de compiler le même code plusieurs fois. Du coup, avec l'instrumentation, c'est comme ça qu'on va savoir, ben, disons, cette méthode, elle est exécutée une trentaine de fois, donc le JIT va vouloir l'optimiser. Donc, elle va pouvoir être recompilée. Et en fait, elle va pouvoir être remplacée après un certain nombre d'optimisations. Donc ça marche bien. Il y a des choses qui étaient déjà en place. Mais du coup, on fait quoi avec les méthodes qui sont peu exécutées, mais prennent beaucoup de temps à être exécutées, comme une grosse boucle, etc. Donc l'idée derrière le remplacement sur la pile, on stack replacement, c'est une méthode qui peut être remplacée, même si elle n'est pas exécutée plein de fois, pendant son exécution, alors qu'elle est sur la pile. Donc c'est un peu de la magie, on va dire, parce que le code est en train d'être exécuté et on va remplacer le code au runtime, quoi. Donc avec .NET 7, on peut largement éviter les compromis entre le démarrage et le débit de génération de code grâce à ce on-stack replacement qui permet de la compilation à plusieurs niveaux de s'appliquer à toutes les méthodes, même celles qui durent longtemps. Le sujet d'après, c'est le garbage collector. Donc là, en fait, c'est un changement de stratégie où les garbage collectors d'avant avaient une approche où ils allouaient parfois jusqu'à 1 giga par génération. Et maintenant, en fait, il y a un changement de stratégie où on va utiliser de très nombreuses plus petites régions qui font jusqu'à 4 mégas. Et ça permet au garbage collector d'être plus agile en ce qui concerne les opérations telles que la réaffectation des régions de mémoire et d'une génération à l'autre. Encore un truc qui donc va impacter normalement toutes les applications.
Ce qui est fou, c'est que c'est vraiment, enfin, le JIT et le garbage collector, c'est quelque chose qui existe depuis 2002, depuis le début de .NET, et là ils arrivent encore à avoir des optimisations au niveau performance, quoi.
Ouais, c'est la base de .NET, hein. C'est l'idée, hein. Le just-in-time compilation et le garbage collector, c'est un des avantages, par exemple, par rapport au C ou C++, où il n'y a pas de garbage collector, où le code, c'est vous qui écrivez le code optimisé ou pas optimisé, et donc c'est vraiment la base de .NET, ça.
Alors, dans les autres choses de base, il y a le threading, le multi-threading.
Oui, absolument. Donc là, il y a aussi une partie d'amélioration. Donc la version du threading dans .NET 7, elle a deux améliorations. Une qui touche au threading du pool d'entrée-sortie, IO. En fait, on passe d'une... Jusqu'à maintenant, c'était du code qui n'était pas managé, pas, je ne sais pas comment on dit en français, managé, on va dire. Donc, ce n'était pas du code managé, donc c'était, j'imagine, du C ou du C++. Et donc là, ils ont porté en fait tout ce code sur du code managé. C'était déjà le cas pour le pool de calcul,
ouais.
Qui était entièrement managé. Et donc là, en fait, ça a été porté, quoi. Donc ça, je suis pas très sûr de ce que ça apporte au niveau performance. Par contre, ça va être plus facile à gérer puisque ça devient du C#, quoi, pour ouais, les équipes qui gèrent ça, quoi.
Et ils arrivent quand même à avoir des améliorations. Alors, en passant, ça va pas faire plaisir à ceux qui font du C++, mais ils arrivent quand même à avoir des améliorations au niveau performance en passant de C++ à C#.
Ouais.
J'en connais un qui veut pas être content.
une autre amélioration, c'est le thread pool, qui a une file d'attente globale dans laquelle n'importe quel thread peut mettre le travail en file d'attente. Puis chaque thread pool a sa propre file d'attente locale. Ils ont remarqué qu'avec l'évolution des machines qui ont de plus en plus de cœurs et de plus en plus de threads, il y a de plus en plus de conflits sur les files d'attente qui sont partagées, et en particulier sur la file d'attente globale. Donc .NET 7 résout ce problème pour ces machines en introduisant des files d'attente globales supplémentaires et sur les machines avec un certain nombre de processeurs, aujourd'hui 32 processeurs. Donc pas notre machine à nous, Richard. une des améliorations aussi qui est très intéressante, c'est le native IoT. Donc maintenant, ce native outil, c'est désormais disponible dans .NET 7. C'est une évolution qui vient de CoreRT, qui était lui-même une évolution de .NET native. Et donc, l'idée, c'est de plus avoir de JIT. On en parlait juste avant, du JIT. Là, l'idée, c'est vraiment de plus avoir le JIT et d'avoir un binaire qui résulte de la publication d'une construction d'un exécutable complètement autonome. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de DL, il y a plus de... le GC, en fait, il a été compilé vers du code machine qui tourne sur vos targets, que ce soit Windows, Linux ou du macOS. Donc, il n'y a plus de dépendance externe sur quelle que soit la plateforme. C'est du entièrement natif.
Donc, c'est un peu comme quand on installe le .NET Framework, donc l'ancienne version de .NET, où au moment de l'installation, il y a une compilation qui est faite et c'est avec Engine, engine.exe, ouais. Où là, la compilation regarde l'environnement dans lequel c'était exécuté, c'est-à-dire il regarde ton nombre de cœurs, etc. Et donc, il optimise et il fait cette compilation. Et donc là, on aurait la même chose avec .NET 7.
Exactement. Alors c'est pas les technos qui étaient utilisés à ce moment-là.
Bien sûr, oui.
C'est des nouvelles choses qui vont marcher normalement mieux. Et donc tout le code qui est requis est compilé ou lié à l'exécutable, y compris le GC comme j'expliquais. Et il y a un runtime minimal qui fournit des services autour du threading et autres. Et donc par exemple une console app compilée sous cette forme. Sans aucune optimisation, on va peser 3,5 mégas sur un Windows 64 bits, ce qui est pas mal. Alors bon, si c'est juste pour faire un Hello World, c'est sûr que 3,5 mégas, il y a des technos qui sont mieux. Mais après, on peut introduire des options et passer au compilateur, on peut passer au compilateur Advanced of Time natif. Et on va pouvoir utiliser aussi le trimmer qui permet de regarder le code qui est généré et se dire, ah bah tiens, cette librairie, j'en ai pas besoin, donc je peux l'enlever. Ce code-là, dans cette librairie, c'est pas utilisé, donc je peux l'enlever. Et donc avec ça, en fait, ils arrivent à descendre de 3,5 à 2 mégas. Et je pense qu'il y a une continuation dans ce travail-là, ça va avancer. C'est des choses qui vont servir aussi pour Mono, qui est utilisé dans WebAssembly, Blazor WebAssembly et tout ça, donc... C'est vraiment un travail qui va continuer à aller vers l'avant, quoi.
Et alors, cette compilation, elle se fait sur le poste, enfin le poste du développeur, ou elle se fait sur le poste du client?
Bonne question. C'est en fait, elle va se faire sur le poste du développeur.
D'accord.
Ou le CI, Continuous Integration. Donc c'est plus sur le poste de l'utilisateur. C'est quand on va publier les artefacts. Qu'on va dire, je veux de l'IoT et je veux utiliser ces optimisations. Et quand on va publier, ce code-là va être optimisé et créé sur la machine du développeur ou sur l'environnement CI.
OK.
OK, on parlait de Mono et de Blazor WebAssembly. Donc Mono, si. Je ne sais pas si tu es au courant, mais en fait, ce que Blazor WebAssembly, les applications Android et les applications iOS, elles utilisent Mono derrière et non pas .NET CLR. Donc Mono, il a vu des améliorations aussi significatives avec .NET 7. Par exemple, l'introduction du TR compilation, c'est ce dont on parlait avant. Ça a été introduit dans cette version et ça permet de voir un démarrage de l'application, des applications de Blazor WebAssembly qui vont démarrer 10 à 20% plus rapidement. Donc c'est assez intéressant. Et il y a d'autres améliorations qui viennent plus d'une grande unification entre le Core, CLR et Mono. Aujourd'hui, toutes les bibliothèques .NET principales au-dessus de systèmes privés CoreLib sont les mêmes, quel que soit le runtime utilisé. Et la dernière optimisation sur Mono, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail fait sur la vectorisation. Donc, je me demande à quel moment, en fait, je ne sais pas si ça va arriver ou pas, si c'est un but ou pas, mais j'imagine qu'avoir à maintenir le Mono et Core CLR, Ouais, à un moment, je pense que ces deux systèmes vont converger et puis on n'en aura plus qu'un, quoi. Alors, sinon, bon, si on peut continuer un petit peu, il y a des choses, enfin, il y a beaucoup de choses encore, hein. Il y a les types primitifs et numériques. Alors là, ça va aller vite. Il y a une amélioration des performances de l'analyse, du parsing des nombres à virgule flottante. La même chose pour les booléens. Les énums aussi ont des améliorations de performance. La comparaison de l'égalité des guides, UID, est aussi plus performante. De même pour les dead time. Et C-Sharp 11 aussi introduit les méthodes d'interface abstraite statique. Et là, en fait, il y a tout un panel de méthodes qui ont été exposées, qui vont des fonctions d'exponentiation aux fonctions trigonométriques, en passant par les opérateurs numériques standards, tout disponible via des génériques. De ce fait-là, tu peux enfin écrire un algorithme qui est générique, qui fonctionnent sur ces interfaces et qui vont être utilisables pour les différents types numériques qui existent, etc. Il y a plein d'autres trucs dans ce domaine des numériques, c'est des types primaires.
Oui, en plus, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur des développements, quoi. C'est-à-dire tout ce qui est manipulation d'INT ou genre de choses, de GUID, c'est utilisé partout sans qu'on fasse attention aux performances de ce qu'on écrit comme code, quoi.
Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les applications vont en bénéficier, mais ça ne va pas forcément sauter aux yeux. C'est sûr que si vous passez des millions de guides en boucle, etc., vous allez voir une différence. Mais là, on parle de quelques nanosecondes, hein, donc ouais. Il faut que ça soit utilisé pour voir la différence au runtime, quoi. La catégorie d'après, c'est tout ce qui est array, strings et les spans. .NET 7 introduit pas mal de nouvelles helpers, des méthodes helpers comme est-ce que c'est un ASCII digit, est-ce que c'est un ASCII letter, etc. etc. Tu as des nouvelles API sur le span, comme index of any except, last index of any except. Le string builder replace, il est aussi optimisé pour utiliser des optimisations qui ont été faites dans le array index of, qui permettent d'accélérer la recherche du prochain caractère à remplacer.
Ouais, par exemple, ouais, si on a une chaîne de caractères avec son builder là, on veut remplacer, je sais pas, le A par le C, on a des améliorations, il y a un ratio de 1 à 0,04, quoi, c'est impressionnant, quoi.
Ouais, c'est assez impressionnant. Il y a encore d'autres choses là-dedans dont je parle pas, sinon la catégorie d'après, c'est les regex, c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé. Alors, il y a pas mal d'optimisations, ça rentre beaucoup dans le détail.
Je déteste les regex.
C'est pareil pour moi, franchement. Après, dans notre application, on est obligé d'en utiliser quelques-unes, donc c'est assez intéressant. Et la plus gros, donc il y a beaucoup d'optimisations, il y a différents moteurs d'exécution des regex, et il y a un nouveau truc qui est le source code generator. Donc on va pouvoir en fait générer le code de parsing des regex, et ça c'est super intéressant. Quand on va faire du native IoT, comme on disait, où on a cette idée de tree shaking où on veut enlever des choses. Donc, cette technique, elle va pas marcher quand on va avoir de la réflexion, ce genre de choses, parce que,
par définition, on sait pas ce qu'on veut utiliser, oui.
Exactement. Donc, là, il sait pas, est-ce que je dois enlever cette partie ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on va de plus en plus sur des source code generators qui permettront de résoudre ce genre de problème. Après, je vais arrêter là, mais il y a des optimisations, on pourra en parler peut-être dans la prochaine fois, dans les collections, link, file.io, la compression, le networking, JSON, XML, la cryptographie, les exceptions, la registry, les analyzers et les diagnostics. Donc, ça fait beaucoup, 194 pages, mais je pense que c'est intéressant. Si les perfs, ça vous intéresse en .NET, et on sait que ça fait quelques versions depuis qu'on est sur .NET Core, qu'il y a du travail là-dedans. Donc, voilà pour cette partie sur les .NET 7 performances.
Et d'ailleurs, bientôt, on va faire un épisode spécial justement sur .NET, puisqu'il y a la présentation à la .NET Conf de .NET 7 qui a lieu début novembre. Et en
Ouais.
suivant, on va faire un épisode spécial justement sur C Sharp et son historique depuis le début jusqu'à .NET 7 et voir quels sont en se focusant sur les nouveautés de C Sharp 11 et de .NET 7. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée ou nous contacter sur Reddit ou via Twitter @devdevdev.net. Portez-vous bien et rendez-vous au prochain pull request.